France Musique. Musique et moi.
Jean-Claude Mourleva.
Priscille Lafitte, France Musique.
Sur le point d'achever un livre, il vous semble que celui-ci commence à se détacher de vous et qu'il respire déjà l'air de la liberté. Comme les enfants dans la classe, la veille des grandes vacances, ils sont distraits et bruyants et n'écoutent plus leurs professeurs. Je dirais même qu'au moment où vous écrivez les derniers paragraphes, le livre vous témoigne une certaine hostilité dans sa hâte de se libérer de vous. Et il vous quitte, à peine avez-vous tracé le dernier mot. C'est fini. Il n'a plus besoin de vous. Il vous a déjà oublié. Ce sont les lecteurs, désormais, qui le révéleront à lui-même. Vous éprouvez à ce moment-là un grand vide et le sentiment d'avoir été abandonné.
Yeah.
Un raga de l'aube sur une gamme Kamaj, je crois qu'on prononce comme ça, l'une des 10 gammes ou tates de la musique traditionnelle hindoue chantée par Lakshmi Shankar. Et cette musique vient nous cueillir en ce dimanche. Bienvenue à vous, Jean-Claude Mourleva, dans Musique et moi.
Merci.
Vous êtes écrivain, auteur de livres pour la jeunesse, votre dernier opus, Jefferson, est publié chez Gallimard. Vous avez reçu le prix Astrid Lindgren cette année, une récompense que l'on présente souvent comme le prix Nobel de la littérature jeunesse. Est-ce que vous avez alors pensé au discours de Patrick Modiano à ce moment-là précis, ce discours dont vous venez de nous lire un extrait en tout début d'émission?
Oui, j'ai pensé à lui et en Suède, j'ai parlé de lui quand je me suis rendu là-bas pour rencontrer les jurés et tout le monde. J'ai parlé de Patrick Modiano, mais j'étais tombé amoureux de ces lignes-là bien avant d'être moi-même primé, parce que j'avais lu l'intégralité de son discours devant l'Académie de Suède et vu aussi, et ça compte de voir, parce qu'on voit cet immense échassier timide et mal à l'aise qui est un génie de la littérature et si emprunté et timide dans la parole, qui sue un peu, qui remonte ses lunettes, qui lui glisse sur le nez et qui dit des choses si belles et avec tellement de modestie.
Et la distance qu'il a vis-à-vis de son écriture vous parle ?
Ah, énormément, oui. Et lorsqu'il dit qu'il se sent abandonné par son livre, qu'il s'en va, lorsqu'il l'envoie à son éditeur, je le comprends vraiment, parce que on dit souvent c'est l'auteur qui, lorsqu'il sent que s'il peut pas faire mieux, envoie le livre, s'en débarrasse d'une certaine façon, s'en libère. Et Modiano, il dit non, il est abandonné, l'écrivain, par son livre qui s'en va, comme nos grands enfants peuvent nous abandonner quand ils s'en vont, et c'est très beau et ça fait mal aussi.
La musique, elle, est une compagne, une muse pour votre écriture, je crois. Est-ce qu'elle s'éloigne aussi une fois qu'elle a rempli sa fonction ?
Non, elle ne s'éloigne jamais. Et elle m'accompagne parfois dans l'écriture, pas toujours. Mais lorsqu'elle m'accompagne, il faut que j'ai trouvé la bonne. J'ai du mal à commencer un roman sans avoir trouvé la musique qui va avec. Ça peut durer longtemps. Et lorsque je l'ai trouvé, je vais l'écouter, comme on dit, en boucle, pendant toute la durée de l'écriture, des mois, peut-être une année. Et on entendait Lakshmi Shankar tout à l'heure. Donc dès que j'entends cette voix, je reviens 20 ans en arrière, à l'époque où j'écrivais ce roman qui s'appelle La rivière à l'envers, qui compte beaucoup pour moi. Et je dois beaucoup à Lakshmi Shankar dans l'écriture.
Vous l'avez vu en concert aussi, je crois.
Oui, je pense que c'est un des plus beau souvenir de spectacle vivant de ma vie, franchement. C'était déjà une dame âgée lorsque je l'écoutais dans les années 2000 en écrivant. Et j'ai appris qu'elle donnait un concert à Paris, au musée Guimet. Et donc, dans les 10 minutes qui ont suivi, j'ai acheté mon billet de train, j'ai des billets et tout. Et quelques jours plus tard, j'étais dans la salle, l'auditorium rempli. J'étais surpris de voir qu'autant de gens pouvaient s'intéresser à Lakshmi Shankar. Et je vous raconte l'anecdote rapidement, j'étais assis tout au fond, tout en haut. Je regrettais d'être si loin. Et après le premier raga, je me suis faufilé dans l'obscurité et j'ai vu qu'il y avait une place qui était libre. Tout à fait devant, au centre. J'ai demandé, c'est libre ? Oui, c'est libre, oui. Je m'assois, la lumière revient et Lakshmi Shankar est assise à 2,50 m de moi, assise en tailleur, le dos droit, à plus de 80 ans. Et c'était absolument bouleversant pour moi de voir sa, sérénité, sa façon de tenir les notes aussi longtemps. C'est un immense et très beau souvenir.
La musique vous met donc dans une transe nécessaire à l'écriture, peut-être, Jean-Claude Bourlevat. En tout cas, l'écoute de la musique infuse votre plume et à chaque roman correspond une bande-son. Et nous allons la parcourir ensemble, cette bande-son. Il y aura Philippe Glass et Jean-Sébastien Bach, la voix de Kathleen Ferrier et celle du chanteur folk Woody Guthrie. Et pour commencer cette exploration de votre monde musical, débutons donc par un son de l'enfance, un son court, mais reconnaissable. Une musique très reconnaissable, du moins par les personnes qui ont regardé la télévision dans les années 60, c'est le générique de l'ORTF, générique composé par l'organiste Jean-Jacques Grunewald. Et c'est votre entrée, m'avez-vous dit, dans la musique classique?
Je crois bien, oui. Donc la télé est arrivée chez nous, je pense que j'avais 12 ans peut-être, et donc les programmes commençaient par ce générique-là. C'était la musique classique. Et je crois bien que je n'en avais pas entendu avant. J'étais un enfant heureux, hein, avec mes 5 frères et sœurs. Je parle toujours d'eux parce que j'ai une belle enfance. Mais je n'ai pas eu une enfance au milieu des livres, ni de la musique classique. Donc j'ai eu le bonheur de pouvoir découvrir tout ça plus tard.
Et ce générique vous inspire quoi comme première impression musicale? C'est impressionnant?
Oui, voilà. C'est pas quelque chose de très très beau. Je suis pas fan en le réécoutant maintenant, mais ça m'impressionnait. Oui, il y avait quelque chose là-dedans d'assez impressionnant. Et puis il y avait une seule chaîne, la télévision. Ça représentait tout de même quelque chose pour nous et cette musique qui ouvrait le spectacle. Ça a dû m'impressionner, pas forcément me plaire, mais m'impressionner en tout cas.
Vous avez grandi au pied d'un moulin, je crois. En Auvergne?
Oui, c'était pas un moulin à vent, donc il n'était pas du tout sur une colline, mais au contraire dans un trou, puisqu'il fallait que l'eau descende pour entraîner la turbine. Et on en a vécu, toute ma petite famille et moi, dans ce trou, oui.
En Auvergne?
En Auvergne, oui. Donc assez loin de la culture, mais une fois de plus, tout à fait heureux, et dans cette énergie collective.
Ça
ressemble
un peu à un début de conte, quand même, dans une grande fratrie.
Beaucoup de mes romans sont un peu inspiré de contes, donc on me dit tu as dû en lire beaucoup enfant. Je dis non, mais j'ai vécu dans un univers de contes. Le paysage, la forêt toute proche, la forêt noire, la neige profonde en hiver. Oui, il y avait un univers de contes, puis on se racontait beaucoup de choses avec mes frères et sœurs, donc j'étais dans la parole et les paysages. Voilà. J'ai découvert les contes, les réels, beaucoup plus tard. Thank you.
le boléro de Ravel par l'orchestre Anima Eterna dirigé par Jos von Immersel. Est-ce que cet orchestre-là est aussi impressionnant quand vous étiez enfant que le générique de l'ORTF qu'on entendait plus tôt, Jean-Claude Mourlevin?
Beaucoup plus, parce que en le réécoutant là maintenant, je comprends certaines choses auxquelles je n'avais pas vraiment pensé. Alors, le boléro de Ravel, c'est un peu ma deuxième rencontre musicale avec la musique classique. Et là, j'étais jeune lycéen, je devais être en seconde peut-être, au lycée de Blaise Pascal d'Ambert, en Auvergne. Et un de nos professeurs, qui était un bon professeur de français, il avait inventé pour nous l'heure de la musique, ou je ne sais plus que les rencontres de la musique. Une fois par semaine, on se réunissait, des volontaires, et ils nous faisaient écouter de la musique. Et nous, internes, j'étais interne, je suis resté 8 ans interne dans cet établissement, dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait nous sortir, nous distraire un peu du quotidien, on sautait dessus. Donc j'y suis allé, et c'était en fin d'après-midi, je pensais qu'il n'y aurait que des internes. Et puis, il y a quelques externes et demi-pensionnaires qui sont venus s'ajouter. Et parmi eux, il y avait la fille dont j'étais amoureux à l'époque. Et donc, le professeur dit, eh bien, je vais vous faire écouter le boléro de Ravel, on savait même pas ce que c'était. Et puis ça commence, et puis je me dis, oh, c'est vraiment ennuyeux ce truc-là. Et puis petit à petit, il y a cette montée que tout le monde connaît. Et moi, en fait, je cherchais seulement le regard de cette fille. Et alors, est-ce que je l'invente ou est-ce que c'est vraiment un souvenir? Et il est venu, le regard. Nos regards se sont croisés. Et ensuite, il y a cette montée musicale très puissante que j'ai sans doute vécu comme une sorte de métaphore sur ce que pourrait devenir notre histoire d'amour, voilà, qui n'est pas montée aussi haut, je vous le dis tout de suite.
Un roman aussi peut commencer piano et monter en crescendo, il y a de ça dans l'écriture aussi.
Ah, le rythme est déterminant, le scénario, bien sûr. Mais je me dis toujours, le scénario, je le trouverai toujours. L'histoire, je la trouverai toujours. Ce qui compte davantage pour moi, c'est de trouver le bon angle, la bonne musique, je dis souvent, le bon univers. Et une fois qu'on a ça, que je définis comme une forme, ensuite on invente l'histoire qui va aller dedans. Mais ça, on trouvera toujours. Je crois que c'est Jean Gabin qui disait, pour un bon film, il faut une bonne histoire. Une bonne histoire et une bonne histoire, ces trois choses. Je trouve ça assez, pardon Jean Gabin, que j'admire par ailleurs, mais un peu stupide. L'histoire, c'est un des éléments. Ce qui compte beaucoup, c'est la musique aussi, même en écriture, la musique.
Mais par exemple, dans votre dernier livre, Jefferson, il y a cette montée en tension, la fin est un grand feu d'artifice, tout arrive. Oui. Il y a comme ça ce crescendo que vous recherchez, j'imagine, sur la durée. Ça doit être pas facile d'imaginer, de sentir cette durée lorsque vous l'écrivez.
Alors,
cette montée en oui, puissance.
Quand j'écris, j'essaie de me rappeler que j'ai fait beaucoup du théâtre pendant une grande partie de ma vie, un peu comme comédien, mais pas tellement, j'étais pas très bon pour dire la vérité, j'étais moyen. Et comme metteur en scène, j'ai adoré ça. Et dans l'écriture, je me rappelle ces expériences de théâtre où le rythme est tellement déterminant et il va faire que les spectateurs dans la salle vous lâchent ou ne vous lâchent pas, quoi. Et on le sent, dès qu'ils lâchent, c'est très douloureux, hein. Alors, quand on écrit, on a personne dans son dos pour vous dire, là, ça va plus, hein. Mais je me projette toujours dans le moment où quelqu'un va recevoir ce texte et dès que j'ai la sensation qu'il y a un petit peu de mou dans la tension de ce lien qui est entre moi et eux, comme entre la scène et les spectateurs pour le théâtre, je dis il faut faire quelque chose. Et c'est très souvent une question de rythme et pas de scénario.
Thank you.
Jacques Loussier, André Arpinot et Vincent Charbonnier revisitent le premier prélude en do majeur de Jean-Sébastien Bach. C'est un peu comme en écriture, la trame est là, le thème est là, et Loussier en fait un peu ce qu'il veut.
Voilà.
Et il élabore et à partir de là.
Oui, oui, on peut lui être vraiment reconnaissant hein, d'avoir osé ça, c'était gonflé. En fait, cette désacralisation de la musique classique... on lui doit beaucoup, enfin des auditeurs comme moi qui n'avaient pas l'entrée aussi facile et directe à cette musique-là, il nous y a fait entrer.
C'est l'entrée dans Bach pour vous
Oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Et ça, je me souviens, c'est un des premiers disques 33 tours qui sont arrivés dans notre maison par mes frères et sœurs aînés, mes sœurs, je pense. Oui, ce sont elles qui l'ont apporté, ce disque. Jacques Loussier, playback. Oui, comme je le disais, désacralisation d'une musique qui paraissait un petit peu pas pour nous, quoi, hors de portée, parce que il y a une question de classe sociale, bien sûr, de culture, et qui fait qu'on se disait inconsciemment, c'est pas pour moi, cette chose-là. Et en fait, bien sûr, c'était pour moi, pour nous, pour tout le monde.
Et
Loussier a bien aidé.
On se rend compte que Bach est la source de toute chose, même du jazz.
Oui.
On parlait de rythme d'écriture à l'instant. Comment est-ce que vous savez qu'un lecteur ne va pas lâcher votre roman ? Vous devez relire, mais relire, revenir en arrière. Vous devez revisiter en permanence votre écriture pour voir si le fil si ça tient.
Si ça tient, oui. Je reviens assez peu en arrière. En réalité, comme je le dis souvent, mais c'est vraiment la vérité, je n'écris le chapitre 2 que si je suis amoureux de mon chapitre 1. Donc, j'ai pas tellement à revenir en arrière parce que je n'avance que si je suis, à tort ou à raison, vraiment plus que satisfait, amoureux de ce que j'ai écrit là. Et donc, j'avance comme ça à petits pas. Et si moi, je reste possédé par mon histoire, parce qu'elle me fait rire, parce qu'elle me fait pleurer, je me dis que forcément, les lecteurs et lectrices vont la recevoir comme moi. Je leur fais confiance absolue. De toute façon, avant de commencer le roman, je ne sais pas si mes lecteurs vont avoir 12 ans, 45 ou 72, si ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des filles, des garçons. Je les crédite juste d'avoir suffisamment d'intelligence, mais d'avoir beaucoup de sensibilité, d'avoir de l'humour, d'avoir de l'humanité en eux. Je les crédite de tout cela. Et j'écris pour eux.
Jean-Claude Bourlevin, vous êtes donc passé par Loucier pour découvrir Bach et vous vous arrêtez aux suites pour violoncelle dans quelles circonstances ? Celle spécifiquement de Mstislav Rostropovitch ?
Oui, je les ai d'abord entendues par lui et écoutées beaucoup en écrivant L'Enfant Océan. C'était donc en 1999, puisque le roman est paru en 2000, je crois. Et j'ai écouté et réécouté, cette musique m'a accompagné pendant toute l'écriture.
Et qu'est-ce que ça permet ?
Ça permet d'aller un petit peu au-dessus de soi-même, je crois, quand même. C'est ça, ça. Ouais, c'est. Il faut être prudent avec ça, quand même, parce que si on écrit en écoutant Bach, On a tout fait de penser qu'on est génial.
On se prend pour Bach?
Non, mais on se prend pour rien du tout, mais on croit que... Et lorsqu'on relit le lendemain dans le silence, on dit « Ah, oui, d'accord, c'était Bach, c'était pas moi, quoi. » Comme je le dis parfois, quand on vole dans un avion au-dessus des nuages, c'est l'avion qui vole, c'est pas vous. Et Bach, c'est lui qui vous donne la sensation d'être un petit peu au-dessus de vous-même. Et qui apporte sa touche de spiritualité, comme Lakshmi Shankar avec ses ragas. J'ai toujours eu cette sensation qu'elle me mettait un petit poil au-dessus de moi-même. Et que ces deux romans-là, La rivière à l'envers et L'enfant océan, j'ai parfois l'impression qu'ils valent un peu plus que celui qui les a écrits, c'est moi. Et c'est dû en partie peut-être aux deux musiques que j'écoutais en les écrivant, et Bach en particulier pour L'enfant océan.
Il y a un déroulement aussi dans ces suites pour violoncelle. Il y a un prélude, une allemande, une courante, une sarabande, des menuets, bourrées, gavottes, et ensuite une gigue. Ça vous parle aussi de structure de roman? Ou vous ne l'avez pas intellectualisé comme ça?
Je ne l'ai pas intellectualisé comme ça. Très certainement que inconsciemment, la musique écoutée à ce moment-là en écrivant a pu infléchir. Puisque moi, lorsque je n'écris, je n'ai pas de scénario, ni de...
Vous n'écrivez pas de trame à l'avance?
Absolument pas. Non. J'avance dans mon histoire comme ça. Et la musique écoutée peut sans doute infléchir sans que je me rende compte. Mais je me laisse volontiers influencer. J'ai pas de résistance en me disant, non, ce passage-là doit être dramatique et il doit l'être. Non, s'il peut aller ailleurs, pourquoi pas? Donc, il faut cette liberté. J'aime bien ce mot de liberté. On en a parlé pour Loussier tout à l'heure, qui prend ses aises avec Bach. J'aime bien cette notion-là de liberté, de ne pas être dans un carcan de genre, de style, et d'être libre, oui, libre.
Vous ne vous dites pas qu'il faut que le héros passe par différentes étapes, qu'il passe par une mort et une résurrection, par toutes ces choses qui ont été...
Si, bien sûr. C'est un petit peu moins simpliste que je viens de le dire. Il y a des montées comme ça, il y a des silences, il y a des reprises, il y a des emballements, quoi. Quand on écrit un roman, on est juché dessus comme sur un cheval. Le cheval, il se fatigue, quelquefois il part au galop, on n'arrive plus à l'arrêter, on le chevauche, oui, on le chevauche. Et ce cheval, et il a son autonomie aussi. On ne dompte pas aussi facilement, donc on le dirige un peu parce que on est dessus, mais on fait un beau couple, le cheval et le cavalier. Et lorsque j'écris un roman, je sens bien que des choses m'échappent. J'essaie de maîtriser, d'être le capitaine de mon histoire. Et je le suis quand même un petit peu, mais j'aime beaucoup être déstabilisé dans cette rigueur que j'essaie vainement de mettre. Ça peut être un sacré bazar quand même dans ma stratégie d'écriture, souvent, ce qui peut me plonger parfois dans l'incertitude totale. Je dis, qu'est-ce que je suis en train d'écrire, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de roman policier avec des animaux, quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et puis je me dis très vite, mais c'est rien du tout, continue, tu verras après ce que c'est.
Par exemple, Bach vous remet dans des rails. C'est ça?
Ah bah Bach, si quelqu'un est rigoureux, c'est bien lui quand même. C'est d'une mécanique incroyable. Et en même temps, ça a quelque chose de très mécanique. Pardon, je sais pas très bien commenter la musique, je suis pas un musicologue. Il y a quelque chose d'infiniment rigoureux et en même temps de libre, et puis qui vous oblige à une certaine spiritualité. Je l'adore sans savoir très bien expliquer pourquoi et comment.
Yeah.
Andy Music, une mélodie de Franz Schubert, ici interprétée par Kathleen Ferrier, accompagnée par la pianiste Phyllis Spur. Souvent on me demande, Kathleen Ferrier, dans cette émission Musique et moi, pourquoi croyez-vous Jean-Claude Morlevin? Pourquoi est-ce qu'elle vous touche?
Ça ne m'étonne pas qu'on vous le demande, parce que sans doute, bon, la voix touche, c'est immédiat, mais sans doute que la personne de Kathleen Ferrier joue un rôle aussi dans cette admiration, cette tendresse qu'on a pour elle, cet amour qu'on a pour elle, peut-être parce qu'elle est disparue très tôt, elle avait 41 ans, je crois, alors, il y a plusieurs biographies de Kathleen Ferrier, et toutes vont dans le même sens lorsqu'il s'agit de dire quel genre de personne elle était, au-delà de son talent extraordinaire, hein, de sa voix. Au-delà de ça, il y a en elle quelque chose qui me plaît beaucoup, à moi en tout cas. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les gens qui vous ont demandé de la passer. C'est sa façon d'être à la fois bouleversante, dès qu'elle met les pieds sur les planches, sur les scènes, et qu'elle ouvre sa voix, parce qu'elle ouvre sa voix, on est bouleversé. Et aussitôt qu'elle est descendue des planches, elle redevient la Kath, qui a plein de copines, et qui est une, pardonnez l'expression, une déconneuse un peu, qui a toujours aimé s'amuser, qui aime la vie, et qui aime rire, et qui peut basculer en quelques secondes, qui pouvait basculer en quelques secondes, comme ça, hein, dans quelque chose qui vous fait pleurer, quoi. Et ça me bouleverse. J'aime beaucoup les personnes comme ça, qui sont plutôt joyeuses dans la vie, mais qui ont une profondeur comme elle.
C'est un beau personnage de roman.
Magnifique.
Si je vous entends bien.
Ah oui, c'est un beau personnage de roman. D'ailleurs, j'ai écrit Le Combat d'hiver en écoutant Kathleen Ferrier, bien sûr. Et Le Combat d'hiver, c'est un roman qui parle de la voix humaine. Il s'agit du chant, de la voix humaine. Et un des deux personnages principaux, ce qui s'appelle Hélène Bach, ou Bach, comme vous voulez, elle s'appelle comme ça dans le roman. Elle est elle-même chanteuse, c'est une jeune fille qui a 17 ou 18 ans, qui chante merveilleusement bien, parce que sa mère, qui l'a précédée, était une grande cantatrice, mais qui a été broyée par la dictature qui s'est installée dans ce pays-là, imaginaire. Et pour moi, la mère, c'est Kathleen Ferrier. Donc j'ai écouté Kathleen Ferrier, comme sans doute dans le roman, sa fille écoute la voix de sa mère.
Thank you.
y a du tragique dans la voix de Kathleen Ferrier et dans cet air. J'ai perdu mon Eurydice en anglais. What is life to me without thee? Tiré d'Orphée Eurydice de Gluck, ici à Kathleen Ferrier, donc à nouveau accompagnée par Gérald Mohr. Il y a de la légèreté aussi, vous le disiez, dans sa vie. Il faut donc ces deux pôles, du tragique et du léger, pour un bon roman.
Oui, sans doute. Il y a de la légèreté dans sa vie parce qu'elle le veut, parce qu'elle a naturellement cette joie de vivre. Mais elle a été soumise à de très dures épreuves. Ses aventures amoureuses n'ont pas été pleines de succès. Sans doute qu'elle aimait davantage les filles que les garçons et que c'était une époque où c'était difficile de vivre ça. Et elle a dû vivre avec.
Vous parliez de ce personnage dans votre roman, Le combat d'hiver.
Oui. Dont j'ai dit Hélène Bach, c'est Milena Bach, elle s'appelle, la jeune chanteuse, pardon.
Quelle voix ont vos personnages? Est-ce que les personnages de vos romans ont un timbre de voix, du moins dans votre oreille à vous?
Oui, je les entends. Je les entends peut-être plus que je ne les vois. Je les décris très peu, en fait. Même les héros, quelquefois, à la page 260, on ne sait toujours pas s'ils sont bruns ou blonds. Puis je m'en fiche un petit peu pour dire la vérité. En revanche, j'ai souvent la sensation de les entendre, oui. Avec les intonations de voix, les silences, les cris.
Les accents.
Oui, les accents, éventuellement, bien sûr.
Et dans ce sens-là, une voix comme celle de Kathleen Ferrier peut vous aider, peut induire des choses.
La voix de Kathleen Ferrier, donc dans l'écriture du combat d'hiver, a apporté une dimension tragique, oui. Absolument. Là, c'est cette profondeur, ce deuil, il est question de... Ouais, c'est un roman, même s'il est publié en littérature de jeunesse, c'est un roman douloureux et profond, où il y a des morts très surprenantes, d'ailleurs. Et c'est un terrain sur lequel Kathleen Ferrier, malheureusement, était experte pour avoir perdu elle-même des gens dans sa famille et pour avoir été confrontée elle-même à l'échéance proche de la mort. Il y a, dans la biographie que j'ai lue d'elle, on dit que quelques jours avant de mourir, elle ne voulait plus recevoir les gens parce que elle ne voulait pas qu'ils la voient comme elle l'était, mais que la dernière personne qui y est allée, elle lui a dit « Je fais le compte de mes bonheurs ». Voilà, quelqu'un qui va mourir dit « Je fais le compte de mes bonheurs ». Cette phrase me fait ma journée, comment dire, en anglais. Elle me fait plus que ma journée, elle me fait mon mois, mes années, un peu ma vie. Je fais le compte de mes bonheurs. Qu'est-ce que j'ai vécu de beau avant de me plaindre d'autre chose ?
Thank you.
Il y a peut-être une mise en abîme à faire, là, si vous permettez, Jean-Claude Morlova, puisque c'est la musique d'un film « The Hours », tiré d'un roman écrit par Michael Cunningham, qui lui-même écoutait la musique de Philip Glass en écrivant. Vous de même, c'est une musique d'écriture pour vous.
Ah oui.
Mais en fait, ce qui m'étonne, c'est ce rapport à l'écriture pendant que vous écoutez de la musique. Il y a plusieurs écrivains qui sont venus à ce même micro et qui m'expliquent parfois qu'ils ont besoin d'écrire en silence et écoutent la musique auparavant, dans un temps préalable, pour ne pas se laisser non plus complètement contaminer par la musique. Et ils ont besoin de faire ça en deux temps. Et vous, vous écrivez dans le même temps que l'écoute.
C'est pas tout à fait aussi simple. Assez souvent, j'écoute la musique associée au roman que je suis en train d'écrire pour m'y remettre, pour me remettre dans l'histoire, dans le rythme, dans la musique donc du roman, dans son univers. Ça m'aide à m'y replonger sans avoir à relire les 8 chapitres précédents, quoi. Et ensuite, une fois que j'y suis vraiment, c'est vrai que l'histoire prend le dessus. C'est-à-dire, on arrive à la fin du CD, si c'est un CD, et je ne me rends même pas compte que la musique s'est arrêtée, parce que je suis sur mon cheval, dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai encore le casque sur les oreilles, mais la musique s'est peut-être arrêtée une heure plus tôt.
Sauf que vous en rendiez forcément compte.
Voilà, oui, oui. Elle aide à se remettre dans sa propre histoire, sur la même note, parce que parfois, on peut d'un jour à l'autre, suivant l'humeur, être dans des dispositions différentes, et c'est pas bien, il faut qu'il y ait une continuité, et les changements de rythme doivent être décidés et voulus, voilà. Donc la musique, pour moi, elle m'accompagne, ça n'est pas elle qui me précède dans l'avancée du roman.
Elle
est avec moi, oui.
Ce que j'entends, c'est que elle vous économise même un temps de relecture. Parce que c'est elle qui contient, la musique contient votre écriture déjà.
Elle contient l'humeur, elle contient l'état dans lequel on se trouvait la veille ou l'avant-veille quand on était, comme au théâtre, on dit être dans l'état de jeu. On est dans un état. C'est-à-dire de créativité, de réception, de sensibilité. On est dans l'état. Quand on n'y est pas, on peut pas. Hein. On peut bien avoir toute la volonté possible, ça ne marche pas. Et puis, on finit par, dans le meilleur des cas, être dans le bon état de jeu ou d'écriture. Et la musique y aide beaucoup. Donc, chaque jour, elle peut aider. Il suffit qu'on réécoute la musique dédiée au roman. En quelques minutes, on se retrouve dans l'état juste de l'histoire qu'on est en train d'écrire.
In the world's mighty gallery of pictures, there's scenes that are painted from life. Scenes of youth and of beauty, scenes of hardships and strife, scenes of wealth and of plenty, old age and a blushing young bride. Hang on the wall, but the saddest of all is a picture from life's other side. A picture from life's other side. Somebody has fell by the way, and a life has gone out with the tide that might have been happy someday. Some poor mother at home is watching and waiting alone, longing to hear from her loved one so dear. That's a picture from life's other side. Now the first scene is one of two brothers, their paths in life differently led. One lived in luxury and riches, and the other one begged for his bread. One night they met on the highway, "Your money, your life, sir," one cried. Then with his knife took his own brother's life. That's a picture from life's other side. Now the next scene is down by the river. A
heartbroken mother and babe. In the harbor light glare, see them shiver. Outcast that no one will save. Once she was a true woman, somebody's darling and pride. God help her, she leaps, there's no one to weep. That's a picture from life's other side. Just a picture from life's other side. Somebody has fell by the way, and the light has gone out with the tide. That might have been happy someday. Some poor mother at home, watching and waiting alone, longing to hear from her loved one so dear. That's a picture from life's other side.
A Picture from Life's Other Side, Woody Guthrie en 1944.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
L'écrivain Jean-Claude Mourlevard est l'invité de Musique et moi ce matin. Vous m'avez dit que vous jouez de la guitare et je vous imagine bien pousser la chansonnette façon Woody Guthrie.
Non, c'est le cas, non, non. J'aurais adoré, voilà, quand j'avais 16 ans, 17 ans, jouer de la guitare, mais j'ai commencé un peu tard et franchement, j'étais pas très doué, quoi. Donc j'ai fini par renoncer. Bon, comme beaucoup de garçons qui jouaient de la guitare à l'époque, c'était pour emballer les filles, il faut bien le dire, quoi. Mais il fallait quand même être assez bon et moi j'étais pas bon. Plus tard, j'ai essayé de jouer du saxophone. Là, j'étais jeune adulte, on va dire. Et au bout de la sixième leçon, ma prof m'a dit que je devrais faire du yoga.
Quel est le rapport?
Parce qu'elle devrait me trouver un peu tendu. Pour les instruments avant, il faut un relâchement. Elle devait juger à raison que je ne l'avais pas.
Il faut une colonne d'air un peu stable, oui.
Voilà, ouais. Donc j'ai rangé le saxophone et je n'y suis plus revenu. Et depuis, je me contente d'écouter.
Alors, il y a un personnage qui joue non pas de la guitare, mais du banjo. C'est Cornebeek, dans la balade de Cornebeek, il y a le bande-son de la country, on entend derrière.
C'est ça, ce roman-là. Oui. Alors, j'adore mon Cornebeek, je ne devrais pas le dire, mais de tous les livres que j'ai écrits, celui-ci me tient vraiment à cœur, et le personnage Cornebeek, parce que c'est l'ami, c'est le pote qu'on a envie d'avoir, quoi, qui a une immense générosité, qui n'a pas forcément inventé le fil à couper le beurre, mais qui est généreux, qui est courageux et qui est surtout qui a une fidélité absolument définitive.
Il est bon musicien ou pas?
Oui, je pense qu'il est bon. Mais bon, comme Woody Guthrie, quoi, il joue un peu là où il se trouve. Il n'a jamais eu l'ambition de devenir un grand concertiste, Cornebeek. Non. Mais on lui dit quand même, dites donc, vous débrouillez drôlement bien, vous devriez. Il dit, ouais, j'aurais dû. Mais seulement, il a consacré sa vie à autre chose. Hein. C'est-à-dire à protéger ce petit bonhomme dont il a la charge. Mais là, c'est une autre histoire.
Vous choisissez souvent des animaux comme personnages de vos romans. Est-ce que c'est une façon de mettre à distance ou au contraire on se reconnaît d'autant mieux ou les enfants se reconnaissent d'autant mieux que ce sont des animaux?
Les deux à la fois, se mettre à distance et aller plus près de la vérité. Hein. Ouais. Je l'ai fait seulement deux fois, hein, en 18 romans, deux fois, mes personnages sont des animaux. D'abord ce cher Cornebeek, qui est un bouc, donc, et maintenant Jefferson, qui est un hérisson. Et c'est effectivement une façon de prendre du recul, d'avoir ce petit décalage que j'aime beaucoup. J'ai écrit des romans réalistes et j'y suis peut-être un petit peu moins à l'aise que dans les romans où il y a ce petit pas de côté. En prenant appui sur le conte, sur le merveilleux, sur le fantastique, mais pas trop. Hein, c'est plutôt à dose homéopathique. Mais il suffit de dire que le personnage, c'est un jeune hérisson. Ensuite, on peut le considérer comme un jeune homme. Il étudie la géographie, il va à l'université, il va chez le coiffeur se faire rafraîchir la houppette. Il est amoureux. Bon, voilà. C'est un garçon, c'est un jeune garçon, c'est un jeune homme. Mais il a une tête de hérisson, ce qui apporte de la fantaisie, de la liberté, ce que, une fois de plus, j'adore.
Skip the life and then go. turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. But the crowd called out for more. The room was hotter and hotter. As the ceiling flew.
Thank you.
Gary Booker en public au Danemark en août 2006, accompagné par l'Orchestre national danois dans A Whiter Shade of Pale. On peut entendre du Bach en sous-texte si on est un petit peu attentif. On peut raccrocher ça à la démarche de Jacques Loussier. J'aimerais qu'on entende maintenant un air de Jacques Offenbach et vous allez nous dire pourquoi et comment vous arrivez à relier les deux.
De vaillance pli, de vaillance c'est les deux Ajax. Et alors, tape et je danse, tape et je danse, tape et je danse le double d'orage. Parmi le fracas immense des cuivres de Saxe, c'est roi rempli de vaillance, pli, de vaillance, pli, de vaillance, c'est les deux Ajax. C'est les deux Ajax. C'est les deux agents. Je suis le bouille d'Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, grâce à mon plongeon. J'aurais l'esprit bien tranquille, n'était mon talon. Je suis le bouille d'Achille, le grand Myrmidon, le grand Myrmidon. Je suis l'époux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, n'en s'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas. Le roi Ménélas. Le roi barbu qui s'avance, c'est Agamemnon. Et ce nom, seul me dispense, d'en dire plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi barbu qui s'avance, c'est Agamemnon.
Un extrait de l'appel Hélène d'Offenbach, c'est la version enregistrée par Michel Plasson, aux côtés de Charles Burle, Gabriel Baquet, Jean-Philippe Lafont et d'autres. Jean-Claude Mourleval, alors comment est-ce que vous pouvez écouter à la suite ou du rock sentimental comme A Whiter Shade of Pale et un opéra bouffe comme La Belle Hélène? Qu'est-ce qui les relie?
Et ce qui les a reliés, c'est un roman qui s'appelle Mes amis devenus et que j'ai écrit et qui était assez autobiographique. C'est le seul roman que j'ai écrit où j'ai puisé abondamment dans mon réservoir de souvenirs et réservoir émotionnel de mon enfance et de mon adolescence. Et dans ces deux musiques-là, le Whiter Shade of Pale, le narrateur du roman qui a la soixantaine, se souvient avoir écouté ça quand il avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, avec son petit groupe d'amis, et il se rappelle ses années incandescentes de son adolescence. Comme chacun de nous, on est accroché à un air comme ça, et on mourra avec, sans doute, parce que il suffit de l'entendre et on y est à nouveau avec cette violence qui est caractéristique de ce qu'on éprouve à cet âge-là. Et moi, le premier, donc. Et la belle Hélène, c'est un des personnages du roman qui se souvient que lui aussi entendait quand il était tout enfant sa maman qu'il a perdu très tôt, chantait cet air d'opéra. Et il entendait sa maman chanter ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance. Et il ne comprenait pas comment on pouvait être tellement vaillant que cela puisse faire des plis sur vous. Et il disait, ces rois ont des plis de vaillance, tellement ils sont vaillants, et voilà. Et il a découvert beaucoup plus tard que c'était pas tout à fait ça, ils étaient juste remplis de vaillance. Voilà. Bon, dans tous les cas, ces deux musiques,
elles parlent de la bande son de Génération aussi.
Voilà. Elles...
Ouais. Ça change l'esprit d'une génération d'avoir des bandes son différentes. Si je comprends bien, vous, votre adolescence, c'était dans les années 60.
Oui.
Et vous m'avez parlé de cette distance que vous aviez au début avec la musique classique. Est-ce qu'il faut être d'une certaine génération pour entrer, pour avoir baigné dans la musique classique, par exemple, dès le départ?
Non, je ne pense pas. Je crois que c'est simplement une question d'origine sociale, hein. Je pense que c'est ça.
Mais il y a des romans aussi qui accompagnent des générations. Il y a toute une génération d'enfants là qui sont en train de grandir en lisant vos romans. Est-ce que vous êtes conscient de ça, de ce que vous êtes en train de leur transmettre comme regard sur le monde?
Alors de plus en plus, parce que les années passent, donc j'ai des lecteurs qui me suivent depuis 20 ans maintenant, ou plus, et qui m'écrivent que mes histoires les ont accompagnés. Ça, je prends ça vraiment comme un honneur qui m'est fait, et ça m'émeut toujours, cette durée, cette permanence, cette fidélité. Et sans doute que je leur en suis reconnaissant, j'ai beaucoup de gratitude pour eux. Mais lorsque j'écris, je ne fais pas ce calcul-là. Je ne me demande pas qu'est-ce que je vais leur apporter, leur enseigner qui pourrait leur servir et les édifier. Non, je vais juste leur raconter une histoire qui va leur faire passer quelques heures, quelques belles heures, les faire pleurer, les faire rire, les émouvoir. Mais malgré moi, je mets dans ces histoires-là ce que je porte comme idée de notre monde et des rapports entre les êtres humains.
Dans Jefferson, il y a quand même un regard dur sur les abattages d'animaux, sur...
L'élevage industriel, oui. Si on le connaît un tout petit peu, comment est-ce qu'on ne peut pas avoir un regard dur, hein? Ceux qui ne l'ont pas, c'est juste qu'ils ne sont pas aller voir, parce que ça épouvanterait tout le monde de savoir. Mais ça n'était pas mon projet en écrivant ce roman de parler de ça. C'est venu dans le scénario au premier tiers.
Vous avez souhaité qu'on écoute, on va l'écouter en tout dernier, une musique qui, elle, est très politique.
Io sono d'accordo sul Viva l'Italia, solamente io non ho 30 anni e quindi la mia vita l'ho fatta, ma sono molto come italiano che gira il mondo molto addolorato per quello che sta avvenendo. Quindi, se io rifaccio la vostra richiesta in vista del pensiero, non lo faccio tanto o solo per ragioni patriottiche, ma in questa sera, mentre il coro cantava «O mia patria più bella e perduta», ho pensato che se noi uccidiamo la cultura su cui è fondata la storia dell'Italia, veramente sarà la nostra patria bella e perduta. Tanto siccome siamo in un clima molto italico e molto spesso Muti ha parlato ai sordi per tanti anni, vorrei, facciamo un'eccezione, siamo in casa nostra, no? Nel teatro della capitale, siccome il coro l'ha cantato magnificamente, l'orchestra l'ha accompagnato benissimo, se volete unirvi anche voi lo facciamo tutti insieme.
Tempo però.
C'est un enregistrement effectué le 12 mars 2011 à l'Opéra de Rome à l'occasion du 150e anniversaire de l'unité italienne. On a donc entendu Riccardo Muti inviter la salle entière à chanter avec lui ce Va Pensiero qui est l'hymne officieux de l'Italie. On entend l'émotion énorme qui est mise derrière et aussi le discours politique de Muti à ce moment-là, qui est devant le gouvernement italien de l'époque et qui leur dit « la culture est en péril » et quand le chant parle de la patrie belle et perdue, il dit « c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui ».
On est en train de la perdre, ouais, c'est ce qu'il dit, oui.
Ouais. Ouais.
Et c'est très émouvant de l'entendre et aussi beaucoup de voir, parce qu'on voit les gens dans la salle qui se sont debout, qui chantent. Ils chantent bien, les Italiens et les Italiennes.
Et sur la scène,
on voit les chœurs, les femmes et les hommes du chœur qui pleurent en chantant. C'est bouleversant. Et cette communion entre le Riccardo Muti, qui a parlé, bien qu'il dise bien que mon nom signifie muet, la scène et la salle, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en parlant du théâtre aussi, cette magie, cette émotion commune et la sensation qu'on peut ensemble changer le monde un peu, un peu, j'espère.
Ça parle de collectif, effectivement.
Ah oui, ça parle de collectif, bien sûr. Et quoi de plus beau que les réussites collectives, les aventures collectives?
Il y a du collectif chez Jefferson dans vos derniers romans, il y a beaucoup d'amitié dans vos romans.
Oui. Tout à fait.
C'est une de vos valeurs.
Et Jefferson, il se rend compte que le scénario de l'histoire le conduit à approcher des gens dont il ne se serait sans doute pas approché, puisqu'il va s'inscrire dans un voyage organisé, et il découvre que c'est des gens bien quand même qui sont là. Et c'est une chose qui me touche.
Un grand merci, Jean-Claude Mourleva, de venir parler de vos musiques ce matin dans Musique et moi. Je rappelle donc que vos livres sont à disposition, notamment lors du Salon du Livre Jeunesse qui va s'ouvrir Porte de Montreuil. Votre tout dernier livre, Jefferson, chez Gallimard. Un grand merci à vous d'être venu
à Paris, dans les studios de Radio France.
Un grand merci à toute l'équipe qui a permis ce Musique et moi. Cédric Châtelus à la technique, Marie Gros à la réalisation, Marie Ferdinand pour la préparation, la mise en ligne. Un très bon dimanche à vous et à la semaine prochaine pour un nouveau Musique et moi.
À réécouter sur francemusique.fr.